Le béton est moins cher que les poitrines. Bonjour, c'est Samuel Goldschmidt. C'est avec ces mots d'André Maginot que je voudrais vous emmener cette année à la redécouverte de la ligne qui porte son nom, que vous aviez sans doute peut-être oublié, et qui revient brutalement dans l'actualité depuis que l'Europe est entrée dans une nouvelle guerre en Ukraine.
Plusieurs personnes nous demandent déjà si on peut leur réserver des places.
Ah, la ligne Maginot est redevenue à la mode, je peux vous dire. Deux jours après les premiers coups de canon en Ukraine, on avait déjà les premières demandes. Est-ce que ça résiste à une attaque atomique? On m'a proposé même de l'argent, 200 euros, pour si on pouvait passer une nuit dans le fort en cas d'attaque.
Un conflit de ce genre amène tout le monde à se reposer des questions qu'on avait totalement occultées parce qu'on avait l'impression d'être passé déjà à un autre monde, à un monde moderne, où on ne parlerait plus jamais de guerre de ce type.
Alors, dans cette série de 7 podcasts, nous allons retourner à la genèse de la ligne Maginot. Pourquoi la France a-t-elle décidé de construire ces gigantesques fortifications? Nous verrons d'ailleurs qu'elle est loin d'être la seule. L'Europe se couvre de béton après la Première Guerre mondiale. Nous allons redécouvrir comment elle a été construite, comment elle a été équipée, comment la vie des soldats à bord a été pensée. Et puis nous allons voir qu'elle a fonctionné, cette ligne Maginot, et surtout qu'elle a servi bien longtemps après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 2015, mais oui, bienvenue donc à bord de ces cuirassés enterrés. Figurez-vous que l'histoire de la ligne Maginot commence en Meuse dès 1914, et pour comprendre pourquoi, il faut se rendre à Fleury devant Douaumont, où nous retrouvons Nicolas Xubac devant un monument bien particulier. Nicolas Xubac est historien, responsable du pôle Histoire et Médiation au Mémorial de Verdun.
Alors on est devant le monument dédié à André Maginot, qui a été inauguré en 1935, et qui rend hommage à l'action de l'homme pendant la Première Guerre mondiale et son action politique de l'entre-deux-guerres. Nous sommes sur le champ de bataille de Verdun, sur le plateau de Souville, là où Maginot avait été décoré le 8 novembre 1914 pour ses actes de bravoure.
Et ce n'est pas n'importe quel soldat. Si son nom est encore connu de tout le monde aujourd'hui, c'est le fruit d'un long parcours.
André Maginot, donc, c'est un député de la Meuse en 1914 et qui s'est engagé comme simple soldat dans un régiment d'infanterie territoriale, le 44e. Et il va se montrer très courageux en menant des patrouilles devant Verdun. Et il sera grièvement blessé le 9 novembre 1914. Il sera ramené par deux soldats qui sont représentés sur le monument, qui est derrière nous. Et cet homme-là, grièvement blessé, ne va plus pouvoir retourner au front. Mais c'est un individu qui va marquer l'opinion publique par son courage. Imaginez-vous un député de la représentation nationale qui combat comme n'importe quel autre citoyen et qui se retrouve en première ligne et blessé. Et cet homme-là, ensuite, il va s'engager pleinement, il va occuper des fonctions qui vont parler à l'opinion publique. Parce que cet homme-là, par son parcours et par son origine, il est d'origine meusienne, il va incarner finalement le sacrifice de la France, le souvenir finalement des défenseurs français. Et après la guerre, il va devenir ministre des Pensions, ce qui est très très important. En 1920, imaginez-vous avec toutes les veuves de guerre, tous les orphelins, tous les invalides. Et cet homme-là, qui incarne encore une fois ces provinces meurtries par la Grande Guerre, il va présider la cérémonie de choix du soldat inconnu le 10 novembre 1920, à la citadelle de Verdun. Il va devenir ministre de la guerre aussi en 1922. Donc c'est un personnage qui va incarner, qui va rappeler finalement le sacrifice qu'ont connu les Français, le sacrifice du territoire, et qui va engager son action politique pour faire en sorte qu'on ne reconnaisse plus ça.
Pour ne plus connaître ça, on va choisir de se fortifier encore. Depuis Vauban, c'est un exercice que l'on connaît très bien en France.
Comme on a connu en Europe de nombreux changements de frontières, on était constamment obligé, en fonction du nouveau tracé des frontières, de bâtir de nouveaux systèmes fortifiés. Les États européens ont tellement entretenu de mauvaises relations depuis le Moyen-Âge qu'on s'est retrouvé systématiquement avec une stratification de fortifications qui parfois se superposent les unes les autres, mais parfois sont construites ex nihilo. Et donc on va se retrouver en effet avec des lignes fortifiées dans des espaces qui font moins de 100 km de large. On va se retrouver avec parfois 3 voire 4 systèmes fortifiés différents. Il suffit de voir en Lorraine ici, donc on a des fortifications Vauban, on pensait à Longwy par exemple dans la région. On va avoir donc des fortifications qui ont été faites sous le Second Empire également, les premiers forts autour de Metz datent du Second Empire. On va avoir cette fortification serrée de rivière, donc encore une fois qui va englober Verdun, Toul, Épinal, Belfort. Les Allemands de leur côté ont fortifié également, quand l'Alsace-Moselle sont devenues allemandes, eh bien, les Allemands ont fortifié Metz et Strasbourg. Et puis par-dessus là, donc toutes ces constructions, c'est la fin du 19e siècle, par-dessus ces fortifications, on va avoir ce tracé de la ligne Maginot qui va s'amorcer à la fin des années 20.
Et le concept de la future ligne de défense des frontières est forgé pendant la bataille de Verdun.
La ligne Maginot, elle s'inscrit dans une tradition de systèmes fortifiés qui ont été érigés depuis l'époque moderne. Le plus célèbre des bâtisseurs est probablement Vauban. Mais avant la Première Guerre mondiale, c'était un autre général qui est moins connu de l'opinion publique, qui est Serré de Rivière.
Le Vauban du 19e siècle.
Voilà, le Vauban de la fin du 19e siècle, tout à fait, et qui a érigé une nouvelle ligne fortifiée pour protéger le territoire français, parce que la France avait perdu l'Alsace-Moselle. Et donc, de fait, il fallait redonner à la France un bouclier en cas de guerre contre l'Allemagne, qui était apparu avec la guerre de 70-71. Et donc à Verdun, quand la bataille de Verdun a commencé en 1916, il y a des forts tout autour de la ville, des forts Serré de Rivière, bâtis entre 1874 et 1914. Et ce qu'il en est, c'est que quand la bataille de Verdun, c'est un déchaînement d'artillerie qui est totalement inédit. Les forts ont révélé dès le début de la guerre leurs points forts mais également leurs faiblesses. Et pendant la bataille de Verdun même, les garnisons vont concevoir par empirisme un nouveau système fortifié. Parce que le grand défi était de se protéger contre l'artillerie lourde. La super artillerie allemande, des obus de 420 mm qui faisaient une tonne, qui avaient été utilisés pour bombarder les forts. Il fallait donc s'en protéger et penser à d'autres choses aussi. On n'avait pas pensé aux gaz, les gaz de combat qui étaient utilisés, les gaz délétères rien que par les explosions. Et les garnisons vont concevoir, c'est vraiment le fruit d'un empirisme, ils vont sous les forts creuser des réseaux de galeries souterrains. Pendant la bataille de Verdun même, on est à partir du mois de mai 1916, ils vont commencer à créer ces galeries souterraines. Et ces galeries souterraines, on va, depuis ces galeries, creuser des puits pour remonter en surface dans les parties importantes des forts, pour pouvoir faire en sorte que la garnison puisse rapidement, depuis ses abris protégés, remonter dans les parties importantes des forts. Donc quand on pense à ce système-là, quand on va refaire le nouveau système fortifié dans l'entre-deux-guerres, en fait, on va reprendre ce système-là. Un ouvrage Maginot, c'est un réseau de galeries souterrains qui remonte en surface dans des blocs de combat et qui permet donc de tirer sur l'adversaire et de rester quand même à l'abri.
Et si la France choisit ce concept après 1918, c'est aussi pour une raison très pragmatique. On sait, c'est une évidence statistique, que la France n'a plus assez d'hommes pour se défendre. Il faut donc compenser par du béton. Michel Trutmann, colonel en retraite, est historien des fortifications. Il est l'auteur de Hackenberg, le géant de la ligne Maginot, aux éditions Arès.
À l'époque des classes creuses, c'est-à-dire des amputations terribles d'hommes en âge de procréer et puis également de se battre, eh bien, on s'est aperçu que la fortification économisait à la fois des effectifs, des poitrines, et puis permettait également la montée en puissance de la mobilisation. La mobilisation prenait 3 semaines, parfois 1 mois. Mais il y avait aussi une différence importante de population entre l'Allemagne et la France. La France avait, je crois, de l'ordre de 37 millions ou 38 millions d'habitants. Les Allemands en avaient plus de 60.
La démonstration est encore plus concrète lorsqu'on se rend dans les ouvrages, comme au Hackenberg en Moselle. Claude Poésy est le président de l'association Amifort qui gère ce site extraordinaire que l'on parcourra d'ailleurs en détail dans les épisodes à venir.
On n'a plus assez d'hommes pour protéger nos frontières, nos kilomètres de frontières terrestres, maritimes et nos colonies. On n'a plus assez de soldats pour aligner des troupes aux frontières. Et il faut compenser le manque de troupes, donc par une fortification qui va permettre d'économiser sur le terrain des milliers et des milliers d'hommes. Si on n'avait pas construit cette fortification qu'est la ligne Maginot, il aurait fallu à nouveau recreuser des tranchées, comme on les connaît encore aujourd'hui dans les guerres modernes. On se renterre à nouveau quand il n'y a pas de fortification. Et il aurait fallu aligner des milliers d'hommes tout le long de la frontière. On n'a plus ces milliers d'hommes. Alors, sur un point central, comme ici par exemple l'ouvrage du Hackenberg, on peut monopoliser un millier d'hommes. Mais on va couvrir plus de 24 km de front. 12 km à droite, 12 km à gauche avec notre artillerie. Et tous ces hommes sont abrités à près de 30 mètres sous terre, sous effectivement des blocs de béton, mais aussi sous les collines, tout le long de la frontière. C'est près de 180 000 hommes à peu près qui sont dans ces fortifications et qui vont couvrir plus de 500 km de frontière. Et c'est aussi dans les ouvrages qu'on va mettre en place les premières consignes de sécurité au travail. On ne veut pas que les soldats se blessent, aussi bien les électromécaniciens en graissant un moteur, aussi bien l'électricien qui travaille. On met des affiches déjà pour les protections au travail, elles voient le jour dans les années 30, parce qu'on a besoin de ces hommes et on ne veut pas remplir les hôpitaux.
Le béton, moins cher que les poitrines, c'est encore une fois le cœur de ce concept et la ligne Maginot dont on aime tant se moquer depuis 70 ans en France est loin d'être une exception. L'Europe entière se couvre de lignes fortifiées entre les deux guerres. C'est ce que nous rappelle le colonel Michel Trutmann.
Tous les pays ont fait leurs fortifications, ou presque. On a des constructions qui existent en gros de la Finlande jusqu'à l'Italie, avec des noms assez expressifs. Alors, en Finlande, c'est la ligne Mannerheim. En France, c'est la ligne Maginot. En Allemagne, c'est le Westwall, donc le mur de l'Ouest, la ligne Siegfried. En Suisse, il y a des fortifications également sur tout le périmètre de la Suisse, y compris un réduit central. Et puis, vous en avez également en Italie, avec le Valo Alpino de Mussolini. Vous en avez en République tchèque, avec la ligne construite avec l'appui de l'armée française, des ingénieurs du génie français, qui est une petite sœur de la ligne Maginot, et sur laquelle Hitler s'est fait les dents avec les Sudètes. Donc il a annexé la ligne Maginot tchèque en 1938 avec l'affaire des Sudètes. Il a récupéré l'acier, les canons, tout le matériel. Et bien sûr, tout ce matériel est parti soit en fonderie pour refaire de l'armement, soit sur le mur de l'Atlantique plus tard. Et alors en Ukraine, vous avez des lignes fortifiées qui ont été construites à l'époque de Staline et puis de Molotov. On l'appelle la ligne Staline.
Et puis il y a la ligne Devez en Belgique, la ligne Aliakmon en Grèce, la ligne Rupnik en Yougoslavie. Plus loin encore, la France va construire la ligne Maret en Tunisie pour se défendre contre l'Italie fasciste qui est présente en Libye. Jamais on n'aura autant fortifié que dans ces années 30 et 40. C'est la logique de l'époque avec les techniques de l'époque. Écoutez Marc Alter, le président des Amis de la ligne Maginot d'Alsace et directeur de l'ouvrage du Schönenbuch.
En Europe et dans le monde, et vous avez du béton partout. Il y en a en Finlande, en Grèce, en Angleterre, les États-Unis dans les Philippines, etc. L'Allemagne a construit pendant la Deuxième Guerre mondiale, on nous parle toujours du Blitzkrieg, ils ont construit 7 lignes de défense différentes, que ce soit en Italie, en Bessarabie, vers la Pologne, etc. Donc, ce n'était pas une mode, c'était une nécessité. Ça marque le désir de paix et de défense des ouvrages. Parce que quand je construis un ouvrage, je ne vais pas attaquer le voisin.
Là où la France marque sa différence, c'est dans la conception de la ligne. Écoutez le colonel Trutmann.
La ligne Maginot a quelque chose de différent des autres lignes. C'est une ligne qui est construite avec une réflexion sur chaque site à protéger. Chaque site a été étudié, toutes les directions de tir ont été étudiées. Au besoin, on nivelait le terrain pour permettre de meilleurs tirs et une meilleure efficacité. Et à la différence des autres fortifications, on a construit de manière standardisée la ligne Siegfried. On a construit de manière standardisée d'autres types de fortifications, par exemple en Ukraine, les Russes. Mais en France, on a construit des modèles souvent standards, mais pour un armement spécifique de forteresse. Ce sont des sites qui sont étudiés avec des plans qui sont préparés par les directions du génie, les directions de travaux de fortification, où des centaines d'ingénieurs travaillaient sur leurs planches à dessin pour utiliser de l'armement dernier cri sortant des usines d'armement français.
Attention, la ligne Maginot, ça n'est pas une muraille de Chine. Les ouvrages sont dispersés le long d'une ligne frontière.
C'est un système mixte qui a été adopté. Donc on est arrivé dans les années 25-26 à un système discontinu de régions fortifiées et un système de gros forts concentrés d'artillerie avec dans les intervalles des petits forts et des petites casemates, avec comme objectif principal un barrage continu de mitrailleuses et ensuite de canons anti-chars le long de la frontière fortifiée.
On s'en rend très bien compte sur le terrain en visitant les ouvrages. Écoutez l'explication de Claude Poésy au cœur du Hackenberg.
Alors c'est une ligne discontinue, mais c'est une ligne d'artillerie continue. C'est-à-dire que tous les ouvrages qui sont placés tous les 3 ou 6 kilomètres ne sont pas reliés entre eux, sauf par le téléphone et par les communications modernes. Par contre, les tirs se croisent. C'est-à-dire que nous, ici, nous tirons sur 2 ouvrages à notre droite et 2 ouvrages à notre gauche, et ces 4 ouvrages qui sont à notre droite et à notre gauche peuvent également tirer sur nous pour nous couvrir. On se couvre mutuellement avec les tourelles d'artillerie qui peuvent tirer donc à 360 degrés et on protège nos voisins s'ils sont attaqués. Et ça a servi tout le long des combats de mai et juin 40, principalement en juin ici sur la ligne Maginot, puisque nous avons couvert l'ouvrage voisin du Michelsberg qui était pris à partie par l'artillerie allemande, mais qui n'avait pas de volonté de traverser et de mener une grosse bataille ici dans le secteur, puisque la grande bataille se jouait dans le secteur des Ardennes et bien sûr le nord de la France et la Belgique.
Le grand reproche que l'on fait à la ligne Maginot, c'est de s'arrêter dans les Ardennes. Mais là encore, ce n'est pas que pour des raisons financières, il y a aussi de l'histoire derrière.
vous avez finalement une porte blindée ici, qui est le Carnot Est. Avec cette ligne Maginot où on a 180 000 hommes qui sont alignés face à la frontière allemande. Et puis un peu plus haut, face à la Belgique, bien sûr, comme la Belgique était neutre, on ne fortifie pas avec des ouvrages de grande importance, puisque c'est un pays voisin, mais ami. Donc on ne déroule pas du barbelé entre nous et un voisin avec qui on s'entend bien, hein, encore aujourd'hui. Hein. Et également, on n'a plus les moyens financiers de couvrir jusqu'à la mer du Nord. Et puis ça aurait pu être ressenti par notre voisin belge comme un acte de guerre, de fortifier face à lui. Donc on met de petites installations, mais pas des gros ouvrages comme ici face au Luxembourg et face à l'Allemagne.
On touche là au grand malentendu sur la ligne Maginot qui aurait failli, alors qu'il y avait deux composantes essentielles à la stratégie française entre deux guerres, le bouclier, la ligne fortifiée, et l'épée, l'armée mobile chargée d'aller à la rencontre de l'ennemi plus au nord. Et c'est ce grand malentendu qui a subsisté jusqu'à aujourd'hui pour l'historien Nicolas Xubac.
Il y a un décalage entre finalement le rôle qu'a une ligne fortifiée et le rôle qu'a attribué l'opinion publique à cette ligne fortifiée, l'opinion publique française des années 30 notamment. Une ligne fortifiée, ça ne sert pas à gagner la guerre. Une ligne fortifiée, c'est un point d'appui sur lequel s'appuie l'armée en campagne pour pouvoir manœuvrer, se déplacer. Une ligne fortifiée, c'est pour éviter une attaque rapide, surprise de la part de l'adversaire. Une ligne fortifiée, ça force l'adversaire à passer à certains endroits. Donc la guerre ne se gagne pas sur les lignes fortifiées, la guerre se gagne sur les armées en campagne. Mais cela constitue un point d'appui très important pour l'armée. Sauf que dans l'entre-deux-guerres, on a une opinion publique française qui est traumatisée par l'hécatombe de 14-18. Vraiment, légitimement traumatisé avec l'hécatombe que l'on a connue, presque 1,4 million de morts, nombre d'orphelins, de veuves, de blessés, de mutilés. Et donc l'opinion publique voilà, va voir dans cet imaginot finalement le bouclier qui va permettre à tout jamais d'externaliser la guerre. Pour l'opinion publique, c'est la guerre aura lieu sur la ligne fortifiée et les Allemands se casseront les dents dessus et on n'aura pas un seul carreau cassé. Sauf que les militaires le savent très bien, déjà à cette époque-là. C'est pas sur la ligne fortifiée que l'on gagne les guerres. C'est avec les armées qui manœuvrent, en fait. Et donc, il y a ce décalage. L'opinion publique a cru que ça allait être voilà, la protection ultime qu'elle a empêchée de reconnaître, finalement, les catastrophes, les dévastations et l'hécatombe de 14-18.
Car oui, la ligne Maginot a rempli son rôle, et très bien même, en mai et juin 1940.
La ligne Maginot a fonctionné. C'est-à-dire qu'à la déclaration de guerre, elle a protégé d'une attaque surprise de la part des Allemands. Il est vrai que les Allemands ont concentré tout leur effort contre la Pologne en septembre 1939, mais ça a empêché une attaque brusquée de la part des Allemands. D'autre part, ça a permis à l'armée française de se mobiliser dans de bonnes conditions, de se concentrer, c'est-à-dire de regrouper les troupes dans de bonnes conditions. Non, ce qui est vraiment défaillant lors du printemps 1940, ça n'est pas la fortification, c'est le plan de bataille français. En fait, le plan de bataille français est mauvais. Les Allemands ont frappé à la charnière entre les lignes fortifiées et les armées en campagne. C'était donc aux armées en campagne de rétablir la situation, ce qui n'arrivera jamais pendant le terrible printemps 1940. Là où elle est bien utilisée, c'est-à-dire là où elle dispose de ses moyens complets avec une étroite relation avec les troupes en extérieur, c'est un système qui s'avère très efficace.
Même avec le retrait des troupes d'intervalle, l'infanterie qui est à l'extérieur en rase campagne entre les ouvrages enterrés, les forts de la ligne Maginot vont continuer tout seuls les combats et empêcher l'armée allemande de passer en Alsace et en Lorraine jusqu'à l'armistice du 25 juin 1940. Et la ligne Maginot des Alpes va interdire l'accès de toutes les vallées aux armées de Mussolini qui vont subir une cuisante défaite. Mais n'anticipons pas, cette ligne, une fois décidée, il faudra la construire, un chantier titanesque de plus de 5 ans, mais ça, ce sera pour le prochain épisode.